différentes, mais nous avons tous une chose en commun. Nous avons tous des montagnes à surmonter dans nos vies. Des montagnes financières, des montagnes familiales, des montagnes relationnelles, des montagnes dans notre ministère, des montagnes dans notre travail pour ceux qui sont en affaires, des montagnes au niveau de la santé, toutes sortes de montagnes. Et des fois, on fait face à certaines montagnes dans notre vie, puis on est découragé, puis on se dit, comment je vais faire pour surmonter cette montagne-là? Bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin. Avec Jésus, je crois de tout mon cœur qu'avec Jésus, aucune montagne n'est trop grande pour lui. Aucune montagne n'est trop grande pour le Seigneur, et avec Dieu, on est capable d'aller jusqu'en haut. Et il y a quelque temps de ça, j'ai vu un film, ça s'appelle « La poursuite du bonheur ». C'est une histoire vraie qui se passe au début des années 80. Et c'est un homme aux États-Unis qui sa vie s'est effondrée complètement. Sa femme l'a quitté, il a tout perdu, il s'est retrouvé dans la rue comme un itinérant. Et à la fin, sa vie s'effondre littéralement. Il se retrouve comme un itinérant à vivre avec son petit enfant. Mais à la fin du film, il y a un moment très touchant parce qu'il se retrouve dans une église comme ce matin. Et puis, il y a une chorale gospel qui chante. Et il y a une chanteuse qui se met à chanter avec conviction. Puis elle chante un chant. Puis dans le chant, ça dit ceci: « Seigneur, n'enlève pas cette montagne, mais donne-moi le courage d'y faire face. » Et c'est cette prière-là que je fais pour ma vie et pour vous ce matin. « Seigneur, donne-nous le courage de triompher de nos montagnes. » Parce que lorsqu'on réussit à triompher des montagnes et lorsqu'on réussit à se rendre en haut de nos montagnes, nous ne sommes plus la même personne. Et Dieu désire nous faire franchir certaines étapes de la montagne. Et ce matin, on va regarder ensemble trois leçons spirituelles sur comment faire pour surmonter nos montagnes. La première leçon spirituelle que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est « Nous avons besoin des autres ». Dans le psaume 133, on va lire ensemble le psaume 133 au verset 1. Première leçon ce matin, « Nous avons besoin des autres ». Le psaume 133, ça va apparaître sur l'écran. « Voici au qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Vous savez, il y a une puissance incroyable lorsque nous sommes réunis ensemble, la famille de Dieu. Il y a une force quand on est réunis, quand on est ensemble. Et dans le monde de la montagne, c'est une loi fondamentale, la puissance d'être ensemble, la puissance de l'équipe. Beaucoup de gens dans le monde de l'alpinisme, et même en dehors du monde de l'alpinisme, connaissent un homme célèbre qui s'appelle Edmund Hillary. Edmund Hillary est décédé il y a quelques mois de ça, à l'âge de 80 quelques années, et le premier homme à avoir atteint le sommet du mont Everest en 1953, la plus haute montagne du monde, plusieurs tentatives auparavant, il est le premier à avoir atteint cette montagne, et son visage a littéralement fait le tour du monde comme étant le gars qui a fait le sommet, et il est célèbre et il est connu. Mais très peu de gens connaissent Tenzing Norgay. Tenzing Norgay, qui est le monsieur à droite, est le Sherpa qui a accompagné M. Hillary au sommet d'Everest. Mais très peu de gens connaissent M. Norgay. Sa photo n'a pas fait le tour du monde parce que c'est lui qui a pris la photo d'Hillary. Mais M. Hillary n'aurait jamais pu atteindre le sommet de l'Everest tout seul. Il a eu besoin de l'aide de M. Norgay. Mais M. Norgay n'est pas connu, lui. Mais en montagne, le principe d'être ensemble est un principe fondamental. Et si vous montez, vous avez la chance un jour de monter les montagnes de 4000 mètres et plus, c'est très, très rare que vous allez voir des grimpeurs solitaires. La plupart du temps, ce qu'on voit en haute montagne, ce sont ce qu'on appelle des cordées. C'est plusieurs alpinistes qui sont reliés les uns aux autres avec des harnais. On a un harnais et on a une corde de quelques mètres qui nous relie les uns aux autres. Et il y a une raison pour ça. Parfois, lorsqu'on a fait le Mont-Blanc, on a passé à des endroits, ils appellent ça des ponts de neige. C'est-à-dire que tu marches, mais tu ne sais pas qu'en dessous de toi, la neige n'est pas tellement épaisse. Et ça arrive parfois que la neige cède et que l'alpiniste tombe dans le vide, peut tomber dans une crevasse des fois de 300-400 mètres. Si jamais ça arrive, les autres alpinistes de la cordée se lancent par terre avec le piolet et plantent leur piolet dans la neige et font ce qu'on appelle un self-arrest. Et là, on arrête et tu sauves la vie du gars qui est tombé dans le trou. Gloire à Dieu parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire. Sur la photo qui est ici, on appelle ça des arêtes. Celle-ci est quand même assez large, mais on a passé sur certaines arêtes parfois que c'est à peine à la largeur de tes pieds. Et chaque bord, ce sont des précipices. Et parfois, il y a des rafales de vent. On a eu des rafales de vent de 100 km/h lorsqu'on était sur le Mont-Blanc. Une rafale de vent peut arriver, et ça peut arriver parfois qu'un alpiniste tombe dans le vide d'un côté. Si jamais ça arrive, les autres, automatiquement, sans hésiter, se lancent dans le vide de l'autre côté, et la corde reste entre les deux, et tout le monde est sauvé. Gloire à Dieu, on n'a pas eu besoin de le faire, ça non plus. Lorsqu'on est arrivé, on va voir une photo dans un instant, un endroit qui s'appelle le couloir de la mort. Ils m'ont dit non une fois qu'on l'a traversé. Et c'est un endroit terrifiant, c'est vraiment très, très abrupt, très, très à pic, et c'est haut en haut, puis la cordée qui est là, ils font demi-tour, j'ai eu juste le temps de prendre une photo, ils font demi-tour parce qu'il a commencé à avoir un début d'avalanche. Et juste entre nous et eux, il y avait un couple qui était là, qui devait passer par le corridor de la mort, et la dame s'est mise à pleurer, et ils étaient terrifiés, ils ont fait demi-tour, ils sont arrêtés à côté de nous pour nous dire on ne sera pas capable d'y aller, c'est beaucoup plus difficile qu'on pensait, on n'a pas l'expérience nécessaire, c'est trop pour nous, et on a trop peur, on fait demi-tour. Et quand je les ai vus partir, dans le fond de moi, j'avais envie de partir avec eux autres. Mais j'ai réussi à traverser le couloir de la mort et à monter encore plus haut. Pourquoi? Parce que j'avais dans mon équipe des compagnons de cordée capables, avec l'expérience, avec les talents et la connaissance nécessaires pour aller encore plus haut. Sans eux, jamais j'aurais pu monter plus haut. Et quelle leçon spirituelle? C'est la même chose dans notre vie. Parfois, on a besoin des autres pour aller plus haut. On a besoin de se mettre en cordée avec d'autres frères, avec d'autres sœurs, avec d'autres personnes pour monter plus haut. Un de mes sports préférés, c'est le vélo. Et vous connaissez certainement la course célèbre, le Tour de France. Et la plupart d'entre nous, même si on ne suit pas vraiment le monde du vélo, on connaît un coureur qui s'appelle Lance Armstrong, qui a gagné 7 fois consécutifs le Tour de France. Et Lance Armstrong, c'est lui le gars qui a le maillot jaune, le chandail jaune. C'est lui qui a fait son visage, a fait le Tour du monde, la couverture de tous les magazines lorsqu'il a remporté le Tour de France. C'est lui qu'on connaît. Mais, dans l'épreuve du Tour de France, c'est impossible, je dis bien impossible, de remporter le Tour de France à moins d'avoir une équipe incroyable avec nous. Et lorsqu'ils remportent le Tour de France, savez-vous ce qu'ils font? Le leader de l'équipe prend la bourse et il garde rien pour lui, il la distribue à toute l'équipe parce qu'il sait que sans son équipe, il n'aurait jamais pu gagner la course. Et dans les équipes de course, il y a un rôle qu'on appelle le rôle du domestique. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Le domestique, quand il commence la course, il sait en partant qu'il ne gagnera jamais la course. Le domestique, lui, va sacrifier son vélo si jamais le leader de l'équipe a un problème technique avec son vélo. Le domestique, c'est lui qui se met le vent en face, qui va pédaler pendant 2-3 heures, le vent en face, qui va s'arracher le cœur dans le vent pour que le leader de l'équipe se cache en arrière. Et lorsqu'ils vont arriver pas tellement loin de la ligne d'arrivée, le domestique, lui, est à moitié mort, il s'enlève du chemin. Le leader, lui, est rempli de force, il fait un sprint, il remporte la course. C'est impossible tout seul. C'est exactement la même chose dans la marche chrétienne, dans l'aventure de la foi, dans l'ascension de nos montagnes spirituelles. C'est impossible d'aller plus loin et plus haut tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Vous savez, la femme qui est toute seule à la maison, qui est dépressive, qui est découragée, qui fait face à toutes sortes de montagnes et d'épreuves et de découragements, si elle reste toute seule chez elle, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour elle. Mais si cette femme sort de chez elle, qu'elle vient se joindre à la famille de Dieu et qu'elle se met en cordée spirituelle avec d'autres femmes de Dieu, je suis certain qu'elle va passer au travers. Même chose pour l'homme qui a des batailles dans sa tête, qui fait face à des problèmes financiers à son travail, des problèmes dans son mariage et qui remet tout en question, qui est découragé. S'il reste tout seul dans ses problèmes, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'il s'en sorte. Mais s'il sort d'où il est et qu'il se met en cordée spirituelle avec d'autres hommes de Dieu, je suis certain qu'il va surmonter ces montagnes. Ensemble, il y a une force incroyable lorsque nous sommes réunis ensemble. De là l'importance également de bien choisir tes compagnons de cordée. Vous savez, quand on va en montagne comme ça, quand tu sais que tu peux tomber dans un précipice puis les autres vont te sauver la vie, laissez-moi vous dire que je n'irai pas en montagne avec n'importe qui, avec des gens pas sérieux, que je ne sais même pas s'il a vraiment attaché la corde, je ne sais pas s'il va marcher n'importe où, je ne sais même pas s'il va essayer de me sauver. Je vais aller en montagne avec des gens en qui j'ai confiance, des gens qui peuvent m'amener plus haut. C'est exactement la même chose dans la marche chrétienne. Vous savez, il y a des gens dans ma vie, à travers les années, il y a des gens que j'ai côtoyés, que quand je suis avec eux, j'ai le goût d'aller encore plus haut. Ils m'entraînent plus haut avec Dieu. Mais d'autres personnes, que quand tu es avec eux autres, on dirait que c'est le contraire. On dirait que tu as le goût de redescendre en bas de la montagne ou tu n'as même pas le goût de monter la montagne du tout. Eh bien, j'aimerais vous suggérer ce matin de choisir minutieusement, méticuleusement, vos compagnons et vos compagnes de cordée dans votre vie. Moi, je veux dans ma vie des gens qui m'amènent plus loin, des gens qui m'amènent plus haut avec Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Et j'ai vécu une expérience, vous savez, pour ceux que vous ne me connaissez peut-être pas, mais nous faisons ce ministère-là toutes les semaines, on voyage un peu partout à travers les nations. Et au mois de janvier cette année, j'ai vécu ce principe-là vraiment de façon très concrète. Je suis allé à Tahiti, en Polynésie française, au mois de janvier. C'est là que Dieu habite pendant l'hiver. Et, c'est drôle, hein? Dieu est bon. Dieu a choisi de m'inviter là-bas au mois de janvier. Alléluia! Et c'est vraiment un endroit absolument incroyable, extraordinaire. C'est un des plus beaux endroits au monde, mais aussi une famille de Dieu qui, le Seigneur fait une œuvre extraordinaire là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, tout de suite, ça fait plusieurs fois maintenant que nous allons là-bas, et il y a une équipe qui s'est jointe à moi pendant toute la tournée parce que je suis allé sur de différentes îles également. Et il y avait une personne qui s'occupait de tout le système de son, qui transportait même en avion le système de son. Une autre personne qui s'occupait du multimédia et une autre personne qui s'occupait des CD, DVD, tout ça. C'était vraiment extraordinaire, une équipe. Et un matin, on est arrivé à l'aéroport pour prendre un avion à partir de là-bas pour aller dans une île. Et c'était le lundi matin, il faisait 38 degrés à 9 h le matin à l'aéroport. Et tout le monde avait chaud, tout ça. Il y avait une file d'attente d'au moins 45 minutes, une heure pour enregistrer les bagages, pour prendre un petit avion. Et là, je me dis, c'est pas possible, une heure d'attente, 38 degrés. Et j'ai attendre en ligne comme ça. Et tout à coup, je regarde au comptoir d'enregistrement, il y a un gars qui était là-bas à l'arrière, puis il faisait des signes. Luc, Luc, viens, viens. Et je l'ai reconnu, c'est le directeur du personnel d'Air Tahiti, et c'est un frère chrétien. Alors, il me fait signe, Luc, attends pas en file, viens ici. Et là, je suis sorti de la file avec les trois personnes qui m'accompagnaient. Je suis sorti de la file et j'ai marché vers le comptoir. Tout le monde me regardait avec un genre d'amertume dans leur visage. Et là, on a rempli les papiers, tout ça, et on avait droit à 40 kilos de bagages pour 4 personnes. On avait 120 kilos de bagages. Aucun problème, c'est le patron. Alors, il signe les papiers, donne les étiquettes. Disons, en plus de ça, avant de prendre l'avion, passez au restaurant, voici des coupons, vous avez un repas gratuit. Alléluia! Là, on prend l'avion. On va dans une île. Quand je viens pour partir de l'île, je viens pour reprendre l'avion. Vous allez voir l'image de l'avion en question apparaître dans un instant. J'arrive et lorsque je suis arrivé devant l'avion qui est là, dans le hublot, je vois le pilote qui m'envoie la main comme ça. C'est un des chrétiens qui était dans un des concerts qu'on a fait. Alors, j'entre dans l'avion, il me dit, il sort de son cockpit, il dit, Luc, reste pas assis avec les passagers, viens t'asseoir avec nous autres dans le cockpit. Alors, je me retrouve, l'hôtesse est arrivée avec un jus d'ananas, le collier dans le cou, alléluia. Et là, j'ai donné un cours de conduite au pilote. Et la dernière journée, à la fin de la tournée, j'ai pris un avion à partir de Tahiti pour venir vers Los Angeles. Et juste avant d'embarquer dans l'avion, il y a un gars de sécurité qui arrive à côté de moi, habillé en uniforme. Il dit, est-ce que vous êtes M. Luc Dumont? Je dis, absolument. Il dit, bien, il y a un problème avec votre billet, vous ne pouvez pas embarquer, voulez-vous me suivre? Et là, toute la file d'attente, tous les gens sont en file pour entrer dans l'avion. Et moi, je sors avec un gars de sécurité dans le sens contraire. Ça faisait un peu bizarre. Et là, finalement, j'arrive au comptoir d'enregistrement, et là, il y a une dame tahitienne en robe tahitienne avec un beau sourire. Elle me dit, « Bonjour, frère! » Elle dit, elle s'introduit, elle travaille pour Air Tahiti, elle a un poste haut placé chez Air Tahiti. Elle dit, bon, et ils parlent un peu comme ça, les tahitiens, « Bonjour, frère! Nous vous avons surclassé! » Ça, c'est toujours des bonnes nouvelles. Alors, on retourne dans l'avion, mais au lieu d'aller vers l'arrière de l'appareil, on s'en va vers l'avant de l'appareil. Et quand tu vas vers l'avant de l'appareil, en général, c'est des bonnes nouvelles. On rentre dans l'avion. Moi, je suis habituellement, quand je rentre dans un avion, de voir beaucoup de sièges, peu d'espace. Là, je rentre dans l'avion, c'est peu de sièges, beaucoup d'espace. Et là, j'arrive dans un siège, mes amis, un super, je savais même pas que ça existait dans les avions, des sièges comme ça. On aurait pu s'asseoir deux dans le siège tellement qu'il était gros. Et là, tu peux le coucher complètement à l'arrière. L'autre personne est au rideau tellement qu'elle est loin de moi. Il y a une chose comme ça qui se lève des pieds, une grosse télévision qui sort sur le côté comme ça, puis il y a de la place. Là. Ils m'ont amené une grosse douillette pour mettre sur moi. Incroyable. Et là, la dame qui était dit, elle dit, je vous souhaite un bon voyage. Et là, elle s'en va. Aussitôt qu'elle s'en va, il y a une hôtesse de l'air qui arrive avec un cabaret. Elle dit, bonjour, pasteur, est-ce que vous voulez un peu de champagne? Alléluia. C'est comme ça qu'il faut voyager. Voyez-vous? Mais tout ça ne peut pas arriver si je pars là-bas tout seul, incognito, si je ne suis pas encordé avec la famille de Dieu. Mais parce que je suis encordé avec toute la famille de Dieu quand j'arrive là-bas, c'est incroyable tout ce qui peut arriver. Et je crois qu'il y a une force dans ce lieu ce matin, il y a une puissance incroyable si on est ensemble. Ensemble, il n'y a aucune limite jusqu'où on peut monter. Amen? Amen? Première leçon, nous avons besoin les uns des autres. Deuxième leçon, battez-vous parce que vous avez plus de force que vous pensez. On va lire deux textes ce matin. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Paul nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et dans Matthieu, au chapitre 11, Matthieu, c'est le troisième plus beau nom dans la Bible. Le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est Luc. Ensuite, c'est Matthieu. Matthieu, chapitre 11, verset 12. « Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » La deuxième leçon ce matin que j'aimerais regarder avec vous, c'est « Battez-vous parce que vous avez plus de force que vous pensez. » Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée, il nous parle du combat de la foi. Vous savez, la foi, c'est vraiment un combat. À partir du moment que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous entrez dans un combat. Il y a une guerre spirituelle, il y a un combat spirituel qui prend place. Et l'apôtre Paul, ce qu'il nous dit finalement dans ce texte-là, c'est « Terminez ce que vous commencez. » L'apôtre Paul, les historiens nous disent qu'il aurait été décapité à la fin de sa vie à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ce texte-là, il est à la fin de sa vie et il dit « J'ai combattu le bon combat ». Il ne dit pas « J'ai lâché pendant la course », il dit « J'ai achevé la course ». Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et je crois que l'apôtre Paul nous lance un message ce matin, c'est de terminer ce qu'on commence. Il nous parle d'un combat. Battez-vous. Vous savez, la plupart d'entre nous ne sommes pas des athlètes professionnels. Donc, le moindrement que nous faisons une activité physique quelconque, de sport, de course, de marche, quoi que ce soit, après un certain moment, il y a certains d'entre nous qu'on vient, on est fatigué, puis on pense qu'on est à bout de force. Je suis certain que vous avez déjà fait des activités, puis à un moment donné, tu te dis, je ne suis plus capable, je n'ai plus de force. Et vous pensez vraiment que vous êtes à bout de force. Mais laissez-moi vous dire, si après-midi, par exemple, après la réunion, je vous prends tout le groupe qui est ici, on vous embarque dans des autobus, on s'en va dans les Laurentides, puis on s'en va monter des montagnes, puis on va marcher pendant des heures. Je suis certain qu'après quelques heures, il y en a qui tomberont à terre et disent « Je ne suis plus capable, je ne suis plus fatigué, j'ai faim, je n'ai plus de force. » Et vous seriez sincère, vous penseriez vraiment être à bout de force. Mais laissez-moi vous dire que vous seriez loin d'être à bout de force. Pourquoi? Parce que laissez-moi lâcher après vous un ours enragé, vous allez voir que vous avez encore des forces. Tout à coup, wow! Des nouvelles forces qui apparaissent. Avant que quelqu'un ne meure d'épuisement, c'est pas croyable jusqu'où il peut aller. Avant là, que dans 3 secondes, vous allez mourir d'épuisement parce que vous vous êtes poussé au maximum, vous serez renversé de voir ce que vous êtes capable de faire. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Battez-vous parce que vous avez plus de force que vous pensez. Quand on a fait l'ascension du Mont-Blanc, comme je l'ai mentionné précédemment, j'étais le novice dans l'équipe, j'étais le moins en forme de l'équipe. Les 3 autres, c'est des vrais, moi, je ne suis pas un vrai. J'étais un gars qui voudrait, mais je les ai suivis dans la montagne. Mais un matin, je me souviens, on s'était levé tôt, on a commencé à monter vers 7 heures le matin. Il est 11 heures le matin, j'ai un sac sur le dos, je suis en train de monter, je suis vraiment fatigué, j'ai faim, j'ai mal dormi la nuit d'avant. Et dites-leur pas, là, mais j'étais enragé contre mes 3 copains qui m'avaient emmené. Je me disais, en quoi qu'ils m'ont embarqué? C'est bien trop difficile, je suis plus capable, j'ai faim, je m'ennuie de ma mère. J'ai peur, j'ai faim, je vais aller manger, j'ai scores. Qu'est-ce que c'est ça? Et vraiment, je pensais vraiment être à bout de force. C'est drôle parce qu'il est 11h le matin, à 3h l'après-midi, j'étais encore en train de monter. Voyez-vous? C'est pas parce qu'on pense qu'on est à bout de force qu'il ne nous reste pas des forces. Et ce matin, battez-vous pour ce que Dieu vous a confié. Nous vivons dans une génération de gens qui abandonnent. Une génération d'automatistes, tout est vite, tu as besoin d'argent, tu vas au guichet automatique. S'il y a le moindrement une personne qui passe avant toi, qui ne sait pas trop comment ça marche, on vient enragé, on vient impatient. Au McDonald's, si ça prend 2 minutes 30 au lieu d'une minute 30, on perd le contrôle. On vit dans un monde vite, 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 Internet, haute vitesse, haute, ultra, rapide, rapide. Et à un moment donné, on a perdu un sens de persévérance. Et ce matin, battez-vous pour qu'est-ce que Dieu vous a confié. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour votre mariage. Battez-vous pour votre business. Battez-vous pour le ministère que Dieu vous a confié. Vous avez le droit de dire amen. Battez-vous. Battez-vous pour votre santé. Battez-vous pour qu'est-ce que le Seigneur vous a donné ce matin. Trop de parents qui abandonnent pour leurs enfants. Les enfants sont moindrement rebelles, il n'y a plus rien à faire, on lâche. Battez-vous pour vos enfants. Les étudiants ici ce matin, battez-vous pour vos études. En ce moment, vous allez dans les universités, 75% du monde qui est là, c'est des filles. Félicitations, mesdames, mais qu'est-ce qui arrive avec les gars? Les gars, nous autres, au lieu de c'est trop difficile, les études, on lâche, on aime mieux aller trouver une job qu'on n'aime pas pour pouvoir acheter des mags sur l'auto. Messieurs, battons-nous! Battez-vous. Si vous avez des enfants ce matin qui sont loin de Dieu, au lieu de concéder à l'ennemi vos enfants, battez-vous dans la prière, battez-vous dans l'intercession, priez pour vos enfants, battez-vous. J'ai vécu quelque chose, j'arrive d'une tournée en Europe, j'ai vécu quelque chose absolument prodigieux, d'incroyable. Il y a plusieurs années de ça, en France, il y a un jeune homme qui s'appelle Ludovic, qui a une mère qui est chrétienne, mais lui, il veut rien savoir des choses de Dieu. Et puis, il quitte la France, s'en va travailler aux États-Unis, puis loin de tout ce qui a rapport avec les choses de Dieu. Il est tombé dans la drogue, le trafic de la drogue. Et il s'est fait arrêter pour trafic de drogue et jeté en prison à Saint-Pétersbourg, sur la côte ouest de la Floride. 15 ans, ferme, sans possibilité de libération conditionnelle, trafic de drogue. C'est pas un petit gars qui était dans le crime, mais là, juste quelques mois de crime et flingue. 15 ans de prison, ferme, tu t'en sors pas. Il y a à peu près 4 ou 5 ans de ça, je suis invité, j'anime la louange dans une église en Floride. Et après la réunion, il y a une dame qui vient me voir. Elle s'introduit, elle dit bonjour. Elle dit, je suis impliqué dans le ministère auprès des prisonniers. Et il y a un jeune Français qui vient de se convertir dans la prison. Mais il commence à parler anglais, tout ça, mais moi, je ne parle pas beaucoup français, donc la communication est difficile. Est-ce que tu voudrais venir le visiter? Alors, j'ai accepté, je suis allé le visiter. Et c'était tellement de prison à sécurité maximum que je ne pouvais même pas le voir, même pas à travers une fenêtre ou une vitre. Il a fallu que je le voie à travers une télévision. Et on a passé une demi-heure ensemble à lui parler. J'avais amené ma Bible, je commençais à lui partager des versets, et je l'ai encouragé. Et à la fin, je dis, Seigneur, va te sortir de ça. Il dit, j'en ai pour 15 ans. Je dis, tout est possible avec Dieu. On a prié ensemble dans la télévision. Puis j'ai dit, que Dieu te bénisse, puis Dieu va faire quelque chose. Et je suis reparti. Cette année, au mois de mars, on a fait une tournée en Europe pendant un mois. Et pendant qu'on était en tournée, il y a un soir, il y a une réunion qui s'est bookée à la dernière seconde. Et c'est une église dans le sud de la France qui est une église un peu internationale, c'est-à-dire que c'est pour les travailleurs internationaux. Et c'est dans une région où il y a beaucoup de travailleurs internationaux, donc c'est une église bilingue. Les réunions sont en français et traduites en anglais. Et on m'a demandé, est-ce que tu veux venir faire une réunion là, à la dernière seconde? Je dis, pas de problème. Est-ce que ça te dérange d'être traduit? Pas de problème. J'arrive à la réunion ce soir-là. Et quand je suis arrivé à la réunion, le pasteur s'est présenté à moi. Il dit, je veux te présenter ton traducteur. C'est un jeune homme que je crois que tu connais et qui est en formation pour être pasteur. C'est lui qui va te traduire ce soir. Voici Ludovic.
Alléluia!
Incroyable! Trop long à raconter, mais par une succession de miracles, il a été sorti de sa prison. Après quelques mois plus tard, il a été libéré de sa prison et il a été expatrié en dehors des États-Unis, en France. Il est arrivé en France, il s'est joint à une église, il s'est marié et est en formation pour être un pasteur. Alléluia! Alors, une mère qui n'a jamais arrêté de prier pour une cause qui avait l'air désespérée. Battez-vous ce matin. Battez-vous jusqu'au sommet de la montagne. Vous savez, ici au Québec, on a souvent ce que j'appelle la mentalité de la victime. C'est toujours la faute des autres. C'est la faute de mon père, c'est la faute de mon arrière-arrière-grand-père à l'époque de Louis XV. C'est la faute de Jean Charest, c'est la faute de l'ADQ, c'est la faute de George Bush, c'est la faute du prix de l'essence. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et à cause de ça, on lâche puis on abandonne. C'est pareil que j'avais lu quelque chose d'intéressant à un moment donné sur un président russe qui a... Juste avant sa succession, a donné 2 lettres à son successeur. Et il a dit ceci à son successeur. Il dit, « Quand tu seras dans une situation désespérée, lis la première lettre et tu vas t'en sortir. Si encore une fois tu fais face à une impasse, lis la deuxième lettre et tu vas encore t'en sortir. » Après un certain temps, le successeur traversa de graves difficultés. Il a donc lu la première lettre dans laquelle il est écrit, « Mets tout le blâme sur moi, ton prédécesseur. » Il s'enquit aussitôt de le faire et il fut aussitôt libéré de tous ses problèmes. Quelques temps plus tard, il a encore traversé de graves difficultés. Il a donc lu la deuxième lettre dans laquelle il était écrit « Prends quelques minutes et écris 2 lettres. » Voyez-vous, c'est trop facile de blâmer les autres. Ce matin, si vous faites face à une montagne dans votre vie, battez-vous. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Battez-vous jusqu'au sommet de votre montagne. On va se battre, on va se mettre en cordée avec les autres, mais on n'abandonne pas. Parce que si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. Et si Dieu est avec nous, on va se rendre jusqu'en haut. Si on décide de se battre, on va se rendre jusqu'en haut de nos montagnes. Amen. Troisième leçon spirituelle ce matin, et la dernière, et la leçon qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Voyager léger. On va lire un texte, un dernier texte. Voyager léger. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voyager léger. Ça fait plusieurs années maintenant que j'ai l'opportunité de voyager, faire le tour des églises. Et une des choses qui me frappe beaucoup depuis, dans les dernières années, c'est de voir à quel point il y a des gens dans les églises, des chrétiens, des gens qui ont des fardeaux incroyables, qui marchent avec des fardeaux incroyables. Si on pouvait avoir des vrais yeux spirituels pour voir le vrai monde spirituel, on serait renversé de voir le dimanche des gens rentrer avec des poids. Jamais vu autant de chrétiens découragés, des gens dépressifs, des gens abattus, qui portent des fardeaux. Et pourtant, Jésus dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mais nous, notre fardeau à nous, il est lourd très souvent. On voyage pesant. Et en montagne, il y a un genre de fanatisme sur le poids. C'est-à-dire que si vous allez dans les magasins de plein air, vous allez payer une fortune pour acheter des affaires de montagne hyper légères. Vous pouvez acheter une tasse en titane, vous pouvez payer des fois 50, 75 $ pour une petite tasse de café, mais ça ne pèse rien. Tu peux acheter celle à 3,95 $, mais quand tu enlèves, à force de la lever, tu te fais des bras, tellement que c'est lourd. Et il y a un fanatisme sur le poids. J'entendais dire que même lorsqu'ils font la dernière poussée vers le sommet de l'Everest, parfois, ils prennent un seul sac de couchage pour deux gars. Il y a des limites quand même. Mais le poids, parce que tu ne te rendras pas en haut si tu es trop pesant. Et moi, dans ma vie, c'est mon plus gros problème quand je voyage toujours trop pesant. À chaque fois que je prends l'avion, la plupart du temps quand on prend l'avion, c'est tout le temps... C'est ça. C'est tout le temps, je dois payer, si tu as droit à deux valises, c'est sûr que je vais arriver avec trois valises. Je paye tout le temps des excédents de bagages, des excédents de poids. Tout le temps, je suis le cauchemar des enregistreurs de bagages. Je ne sais pas si c'est une vraie expression, là, mais ceux qui enregistrent les bagages, j'ai tout le temps, je vais tout le temps être à la limite. Des fois, je suis tout le temps en train de négocier. Mais là, madame, je suis 3 kilos au-dessus, tout le temps en train de négocier. Tout le temps trop lourd. Mais ce n'est pas grave, parce que tu payes et l'avion est capable de transporter tes bagages. Mais quand... C'est toi qui dois monter ton bagage en haut de la montagne. C'est une autre histoire. Et au Mont-Blanc, c'est Luc Dumont qui doit amener le sac de Luc Dumont jusqu'en haut. Et juste avant de monter, j'ai pesé les sacs des trois autres gars pour m'assurer que le mien était en équilibre avec les autres. Un, deux, trois, c'était super les sacs des gars. Et quand je suis arrivé avec mon sac, c'était deux fois plus pesant que les autres. Mais je me disais, c'est pas grave, c'est des vieux. Les gars, c'est des vieux. C'est des gars d'un vrai 48. Moi, j'étais un jeune. Alors, je me suis dit, je vais compenser plus lourd, mais plus jeune. Donc, je vais être correct. Oubliez ça. Parce qu'un sac trop lourd, quand tu marches sur du plat, c'est une chose. Mais quand tu montes en manque d'oxygène à cause de l'altitude pendant des heures, c'est une autre histoire. Et j'ai vécu la première journée d'ascension, j'ai vécu un cauchemar. À toutes les minutes, je voulais prendre mon sac et le lancer au bout de mes bras. Il était trop pesant, c'était intolérable. J'avais de la difficulté à suivre les autres. Et j'avais chaud, je transpirais. Il ne faut pas que tu transpires, il ne faut pas que tu aies chaud parce que tu vas geler rendu en haut. C'était vraiment infernal. Et lorsque finalement on est arrivé au refuge le premier soir, au premier refuge, je me suis dit, ça va faire, il faut que je vide ce sac-là. Il faut que j'enlève des choses. Et pourtant, quand j'avais pacté mon sac, je m'étais assuré de n'apporter que l'essentiel à la survie. Alors, j'ai dit, il faut que j'enlève des choses essentielles. Alors, je rouvre mon sac, je commence à regarder. Et là, finalement, je commence à enlever des magazines que j'avais amenés pour lire. Ou quoi. C'est pas des blagues, c'est vraiment vrai. Je m'étais amené un livre. Vous savez les livres hardcover, durs, là? Je m'étais amené ça parce que tout d'un coup, on s'ennuie sur le bord du feu le soir, j'ai goût de lire. Alors, je sors un livre comme ça. J'avais amené 3 jours de montagne, 15 sachets de café. Et alors, je commence à enlever du café. Je m'étais amené trop de vêtements. J'avais eu peur d'avoir froid. J'enlève des vêtements. Et finalement, je suis arrivé vraiment à l'affaire principale. Je n'avais pas confiance dans les cuisiniers du refuge. Alors, je m'étais amené dans mon sac une grosse canne de ravioli Chef Boyardi, format familial. Vous savez, la grosse format familial. Et quand j'ai sorti ça du sac, là, vous auriez dû voir la face des trois autres gars. C'est un genre de mélange de moquerie, mais d'amertume en même temps. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que c'est lourd, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est lourd, cette affaire-là. Et et toute la journée, pendant que je montais, je savais, ravioli, chef Boyardee. Tout le long que je montais, je savais que j'avais pas d'affaire à avoir ça dans mon sac. Je savais que c'était trop lourd. Je savais que j'avais pas d'affaire à avoir ça. Et je voulais certainement pas que les gars le sachent. Parce que s'ils le savaient, ils m'auraient dit de l'enlever. Puis je voulais pas l'enlever. Alors toute la journée, j'ai porté un secret qui m'a ralenti, qui m'a fait souffrir, mais qui surtout a ralenti mon équipe également parce qu'ils m'attendaient dans l'ascension, parce que je ne montais pas assez vite à cause de cette canne. Et le pire, c'est que vous ne l'avez jamais mangé, est encore là-bas. Si vous y allez, est encore là-bas, la canne. Le lendemain, quand j'ai repris mon sac, ça n'avait plus rien à voir parce que là, j'avais un sac qui était léger, tellement plus facile de monter quand le sac est léger. Et j'étais frappé par cette leçon spirituelle. Je crois que plusieurs d'entre nous, on n'est pas capable d'aller plus loin et plus haut avec Dieu parce qu'en ce moment, on transporte un sac spirituel qui est trop lourd. On transporte des rancunes, on transporte de l'amertume, on transporte des vieilles chicanes avec notre beau-frère, avec notre belle-sœur, avec notre cousin, avec notre père, notre mère, notre sœur, avec un frère dans l'église, des chicanes qui a eu lieu il y a 2 ans, il y a 5 ans. Puis c'est encore là dans le sac. On transporte des déceptions, des gens qui nous ont fait des promesses, qui n'ont pas tenu leurs promesses. Puis on continue à avancer, mais c'est encore dans le sac. On s'en souvient. On transporte un divorce qui a eu lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais c'est encore frais aujourd'hui dans notre esprit, pareil comme si c'était arrivé la semaine passée. Le sac est trop lourd. Et ce matin, il faut vider le sac au pied de la croix. Notre fardeau est trop lourd, on n'est pas capable de le porter. Il faut le vider au pied du Seigneur, puis prendre son joug qui est doux et léger. Il faut abandonner le sac ce matin. Moi, une de mes plus grandes frustrations alors que je voyage partout, c'est que partout où je voyage, je rencontre plein de gens. Et souvent, je rencontre des gens avec un potentiel extraordinaire, des gens qui peuvent réaliser des choses extraordinaires pour Dieu, des frères, des sœurs. Tu te dis, waouh, cette personne-là peut faire des choses incroyables. Mais tu reviens 1 an, 2 ans, 5 ans, constamment à ces églises-là, ces endroits-là, tu recroises les mêmes personnes, ça n'avance jamais dans leur vie. Et non seulement ça n'avance pas, mais des fois ça régresse. Très souvent, c'est parce qu'ils transportent dans leur sac des choses inutiles et ne sont pas capables de monter plus haut. Des fois, on transporte dans notre sac des secrets. Tu regardes la personne, tu te dis, pourquoi que ça n'avance pas? Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Et des fois, dans le sac, il y a des secrets. On transporte des secrets qu'on ne veut certainement pas que les autres le sachent, mais nous, on sait que ça nous empêche d'avancer. Ce matin, pourquoi ne pas déposer le sac au pied du Seigneur? Puis dire, Seigneur, je ne suis pas capable de le porter. Ça ne peut plus durer. Il faut que je vide mon sac si je veux aller plus haut et plus loin avec toi. Il y a quelques temps de ça, j'ai rencontré une dame. J'étais à l'hôpital et pendant que la personne avec qui j'étais à l'hôpital est allée à l'urgence, il y avait une dame qui était à côté de moi et elle commençait à me conter sa vie. Et la dame, elle m'a commencé à me raconter ce que les gens lui avaient fait. Mais ils m'ont fait ça, puis ils ont dit ça, puis ils m'ont fait. Puis c'était vraiment terrible. Je dis, madame, c'est terrible. Je dis, c'est arrivé quand? Elle dit, c'est arrivé il y a 15 ans! J'avais le goût de rire comme ça, mais c'était pas drôle. Je me dis, c'est pas croyable. Ça fait 15 ans qu'elle porte ça dans sa vie. Ça fait 15 ans qu'elle est paralysée. Ça fait 15 ans qu'elle n'avance plus. Pour des choses qu'elle ne peut pas changer de toute façon. Ce matin, il faut vider le sac. Mon ami Mario, qui a fait l'ascension du Mont Everest, m'a raconté il y a une zone à partir de 7000 mètres d'altitude. C'est extrêmement difficile de vivre et de respirer. Après 7000 mètres, il appelle ça la « dead zone », la zone de la mort. Et juste entre 7000 mètres et le sommet qui est à 8800 mètres, quelque chose comme ça, faut que tu ailles au sommet, il faut que tu redescendes au plus vite. Tu ne peux pas vivre là. Tu peux pas, même avec des bonbonnes d'oxygène, si tu restes là 3 jours, 4 jours, tu es mort. Tu peux pas, c'est la « dead zone ». Et la dernière chose qu'il faut faire dans la dead zone, c'est de s'asseoir puis se reposer. Et lui, Mario, me partageait, il me disait ça même encore, il m'en parlait cette semaine, il me disait que quand il est rentré dans la dead zone, il s'était fait une promesse à lui-même. Quoi qu'il arrive, je ne m'assois pas. Si je vais arrêter pour me reposer, mais je ne m'assois pas, parce que la plupart des gens qui s'assoient ne se relèvent pas. Et si vous allez encore aujourd'hui au Mont Everest, dans la dead zone, vous allez croiser sur la route des corps d'alpinistes qui sont morts il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Puis à cause qu'il fait tellement froid l'année longue, tout se conserve. L'équipement est encore là, le corps est encore là. Pareil comme c'est arrivé hier. Mais ça fait 20 ans, parfois, que l'alpiniste est mort sur le bord de la route. Et c'est terrifiant, c'est quelque chose de terrible de voir ces corps-là qui sont là sur le bord de la route. Et Mario me racontait que lorsqu'il est entré dans la dead zone, il y avait un monsieur qui était couché par terre et qui était vivant. Et il s'est arrêté à côté du monsieur. Il dit, monsieur, que ça n'a pas l'air de fonctionner. Il dit, non, ça ne va pas du tout. Il dit, il faut absolument que vous redescendiez. Et le monsieur dit, oui, je redescends, mais je me repose un peu. Mario dit, il faut absolument que vous vous leviez et vous descendiez. Mais quand, dans cette zone-là, tu ne peux pas être secouru. Parce que juste te transporter toi-même, ça prend toutes tes forces humaines pour te transporter. Donc, tu ne peux pas être secouru. Donc, lui est parti, il est allé faire le sommet. Et quand il est redescendu, le monsieur est encore là, mais il était mort sur le bord de la route. Et lui s'était dit, quoi qu'arrive, j'arrête, je ne m'assois pas pour me reposer. J'arrête pour me reposer, mais je ne m'assois pas. Et quand j'entends ça, ça me fait tellement penser au monde spirituel. Ça fait des années maintenant que je sillonne les églises et une des choses qui me frappe, c'est de voir sur la route régulièrement des corps spirituels, des gens qui ont déjà servi Dieu mais qui aujourd'hui ne le servent plus, des gens qui ont déjà été passionnés pour Jésus, qui ont perdu la flamme, des gens qui sont effondrés, blessés, déçus par des chrétiens, déçus d'eux-mêmes, des échecs personnels, toutes sortes de choses et sont là sur le bord de la route. Ce matin, j'aimerais vous dire, si votre sac est trop lourd puis il fait en sorte que vous êtes en train de vous effondrer sur le bord de la route, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Videz le sac ce matin. Videz le sac puis montez encore plus haut avec Jésus. Amen. Je termine en vous disant ça. Amen. Amen. Vous connaissez certainement Nelson Mandela. Je termine avec ça. Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a été emprisonné pendant 28 ans. C'est un avocat qui a pris position contre l'apartheid, qui est un régime de racisme extrême en Afrique du Sud, un régime que je considère comme satanique. Vraiment, ça vient des fins fonds de l'enfer, une philosophie, une pensée comme ça. Et lui a pris position comme ça, et à cause de sa position qu'il a pris, il a été jeté en prison pendant 28 ans. Pas un an, pas deux ans, 28 ans. Les plus belles et les meilleures années de sa vie, il a passé dans le fond d'une prison à cause de ses convictions. Et c'est une longue histoire qu'on n'a pas le temps de raconter ce matin, mais après 28 ans, par un concours de circonstances, il a été libéré de la prison et il est devenu président du pays. Pareil comme Joseph dans l'Ancien Testament, de la prison à la présidence. Et il s'est retrouvé président du pays. Mais ce qui est incroyable, c'est que le jour de l'inauguration, de l'investiture de sa présidence, pour fêter, pour célébrer, il a invité à cette fête-là ses anciens gardiens de prison. Et dans son cabinet de ministre, il a appointé des anciens supporters de l'apartheid. Il a dit ceci, il a déclaré ceci. Il a dit, la seule façon d'être libre, c'est d'oublier le passé. Et le gars, il a vraiment atteint le sommet. Il est devenu président du pays, prix Nobel de la paix. C'est assez difficile d'aller plus haut que ça. Parce qu'il a choisi de relâcher. Et ce matin, je crois que si on veut aller plus loin, plus haut avec Dieu, il faut qu'on relâche ce matin. Il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on oublie. Il faut qu'on relâche. Il faut qu'on vide le sac et qu'on le dépose aux pieds du Seigneur. Il y a juste Jésus qui est capable de porter notre fardeau. Nous avons besoin des uns des autres. On se met en cordée avec d'autres. On va se battre pour le sommet. Puis on va voyager léger. C'est la seule façon de surmonter nos montagnes. Amen. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, s'il vous plaît. On va faire une prière ensemble en terminant ce matin. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne qui est ici ce matin, oh Dieu, qui en ce moment peut-être traverse des moments de difficultés, qui traverse une montagne, fait face à une montagne. Je prie pour celui ou celle, Seigneur, qui s'est isolé, qui est tout seul dans son ascension. Je te demande ce matin, Seigneur, d'envoyer dans sa vie des compagnons et des compagnes de cordée qui vont les aider à monter plus haut, à aller plus loin avec toi. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui ont perdu la force, qui n'ont plus de force pour se battre, qui ont perdu le courage de se battre. Ce matin, je prie que tu les remplisses de ta force. Donne-leur la force et la vigueur de l'aigle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur envol comme des aigles. Je prie, Seigneur, pour des forces nouvelles. Je prie pour une vision du sommet. Je prie pour un courage, de l'esprit guerrier combattant ce matin, Seigneur, chez tes enfants dans ce lieu. Et finalement, Seigneur, je prie pour ceux qui ce matin, Seigneur Dieu, sont un sac trop lourd. Ceux qui transportent des blessures, ceux qui transportent de l'amertume, ceux qui transportent des rancunes, des déceptions, des frustrations, des secrets. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses leur montrer ces choses inutiles dans leur vie auxquelles nous devons renoncer, Seigneur, ce matin. Donne-nous la foi et le courage de vider nos sacs à tes pieds, Jésus. Nous venons devant toi ce matin, Jésus, à tes pieds, et nous déposons les armes, nous déposons nos sacs, nous vidons nos sacs à tes pieds, nous prenons ton joug et ton fardeau qui est léger. Et nous avons confiance, Seigneur, qu'avec toi, tout est possible. Avec toi, Seigneur, aucune montagne n'est trop grande. Et avec toi, Jésus, nous allons atteindre le sommet de nos montagnes. Amen. J'aimerais terminer avec un chant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tous ensemble, s'il vous plaît? On va chanter ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. « Toute ma vie, il a donné pour toi. Même si la tempête fait rage et que le vent me fait perdre courage, je m'appuie sur le rocher et aucune montagne ne pourra m'arrêter. » Et on va chanter ce chant ce matin comme une prière. On va chanter ce chant comme une prière au Seigneur. « Toute ma vie, je la donne pour toi, Seigneur, et aucune montagne, avec toi à mes côtés, Seigneur, aucune montagne ne pourra m'arrêter. » Je vous invite vraiment à chanter, vous abandonner complètement ce matin, « Toute ma vie. »
Toute ma vie l'a donné pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie a marché dans tes voies. Oh, toute ma vie a resté près de toi. Même si et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Oh, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter, même si tempête fait rage et que les vents font perdre courage. Oh, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter, même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Oh, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter toute ma vie. Je te donne toute ma vie.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.